tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, on rediffuse Des animaux et des hommes, mon collègue l'animal, un documentaire de Benoît Bory et Charlotte Rouault réalisé par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a des compagnonnages qui sont comme des images d'Épinal. L'attelage de bœufs dociles et leurs bouviers au milieu des champs, le cheval et son cavalier sous les frondaisons, le chasseur à plat ventre et son terrier à l'affût, ou le berger marcheur et son chien vigilant. Mais il y a aussi des histoires de couples, de ces couples étranges et fidèles que l'on forme avec son vieux perroquet déplumé, son chien qui pue, son chat acariâtre, son lapin craintif, sa chèvre retorse ou son hérisson apprivoisé, mais méfiant. Et puis les efforts partagés, les liens de dépendance et de la curiosité pour l'ingéniosité des animaux. Et enfin, l'envie de revenir à la traction animale, mais pour ça, il faut apprendre des gestes oubliés. Alors pour commencer, les personnages. Une circassienne devenue maraîchère, un homme avec un accent et de l'humour, un formateur, un apprenti enthousiaste, des élèves appliqués, des maraîchers qui veulent tout changer, une jument hyper douée, une mule menteuse et un cabot qui gueule. Ensuite le décor. Des sillons, des vergers, des chants d'encouragement, des coups de marteau, le culte du rustique, des navets, des panais, des rapports de dominant-dominé, des socs, des joues, des timons et le souffle des animaux. Aujourd'hui, premier épisode, on pousse la charrue.
Are you coming to get the grain or?
I am, I'm just waiting for the next
thing. Pavla. Elles ont déjà entendu les bruits là du harnachement quand j'ai sorti le harnachement. Et là, elles viennent de m'entendre arriver pareil avec les bruits du vicou là. Oui, ça vient, on y va. Viens ma belle, oui. Là.
Mon collègue l'animal.
Là.
Un documentaire de Charlotte Rouault, Benoît Bory et Christine Robert.
Là. Elle est née ici, hein, notre petite mémère. Là. On l'a presque vue naître. Les juments, elles se cachent hein, pour qu'on ne les voit pas accoucher. Mais, elle est tripotée, ce petit bout de rien du tout. Là, qui.
Toi, c'est faire.
Au début, ils ont les pétoches, ils se planquent. Mais bon, c'est vrai que tu as tripoté les petits sabots, les oreilles, tout de suite, les petits gratouillis, les petits câlins.
Attends.
Et puis maintenant, bon, ça fait 13-14 ans qu'on se connaît. On commence à avoir de la bouteille, hein. Les juments, ça aime bien ça, hein. Ça aime bien ça. Ben, en fait, quand on est arrivé ici, on n'avait pas de projet agricole. C'est un petit peu au fur et à mesure des années hein, que le projet s'est construit.
Bon, c'était un jardin familial,
oui.
En fait.
Au début, on avait un potager pour nourrir la famille.
Et tout à la main.
Ça va pas, c'est une miette. Hein.
Et au fur et à mesure que le potager grandissait, au fur et à mesure que l'appétit de nos enfants grandissait aussi, les rangs s'allongeaient et du coup le travail à la main était de plus en plus pénible. Donc c'est là qu'on est passé en traction animale.
Là.
Marion, avant sa deuxième vie, elle était.
Tourne un peu, tourne.
Patronne, directrice d'un petit cirque qui roulait avec les roulottes.
Et recule.
Oui, donc vous avez déjà une expérience de traction animale, en fait.
Là.
Donc l'attelage, c'était ça roulait, quoi. C'était l'attelage et puis la connaissance des animaux aussi. Alors après, il a fallu transcrire ça au jardin, qui était un petit peu différent. Et c'est là que Promata était vraiment... on s'est trouvés ensemble au bon moment, quoi. Promata était vraiment la réponse à notre histoire, quoi, en fait. Hein.
Je suis en train de la harnacher. C'est-à-dire que j'ai mis le collier, j'ai passé les traits. Voilà, c'est bien. Allez, on va aller travailler, ma belle.
On reviendra tout à l'heure. Hein. Allez, viens.
Oui.
Promatas, ça veut dire promotion du machinisme moderne à traction animale.
Et en fait, il y a moderne dedans. Et les gens imaginent que la modernité vient de... parce qu'on installe de l'hydraulique, parce qu'on installe... parce qu'il y a des moteurs auxiliaires, voilà, bon, ça devient des tracteurs hippomobiles. Et donc, en fait, la modernité vient d'une chose, c'est tout simplement, c'est le concept qui est moderne. C'est-à-dire qu'on arrive, avant, les outils étaient dédiés. Maintenant, nous avons des porte-outils.
L'idée de Promata, c'est un triangle où il y a l'animal, donc l'éleveur, le naisseur, le dresseur, le matériel donc, et puis le paysan, l'utilisateur.
Allez, ça tire un petit peu.
Allez, on y va, va, va. Allez.
C'est le matin.
Allez, ma belle, oui.
Jusqu'à présent, on a développé les outils polyvalents pour les maraîchers. Notre histoire à nous, enfin l'histoire de Promata, elle a débuté comme ça. On faisait du maraîchage avec des vieux outils de récupération, avec des animaux qu'on maîtrisait plus ou moins, et les techniques de travail du sol restaient traditionnelles, influencées par cet outillage. Ce qui était ici très difficile pour arriver au début de saison à avoir des planches correctes, quoi. Et on faisait énormément de travail à la main, d'entretien, parce que c'était des outils qui nous permettaient de préparer le sol, mais c'est pas du travail fin. C'est clair que seule la traction animale pouvait à la fois nous apporter cette souplesse de travail, c'est-à-dire rentrer dans nos cultures à tout moment, pour éliminer le travail à la main, dépasser la préparation du sol avant les semis, mais pouvoir intervenir jusqu'aux récoltes, alléger le travail humain, quoi. Par hasard, dans une revue, en 91, début 91, on tombe sur une petite annonce, dans une revue écolo d'ailleurs, la sortie d'un bouquin, un inventeur au service des petits paysans oubliés par le progrès. On commande tout de suite le livre. Et c'est l'auteur qui nous répond en disant « Écoutez, s'il y a encore des paysans en France qui sont intéressés par traction animale, je peux me déplacer, je vous montre, je vous amène mes prototypes. »
Et là, je suis en train de changer la roue.
Tout est interchangeable. Les outils, d'une part, avec le croche-axe derrière, hein, tu peux changer d'outil en 2 secondes. Pendant les 20, pof, tu remets l'autre. Et après, par rapport au travail des serres, on avait besoin de passer très très près des plastiques. Donc cette barre qui était devant, on a pu la changer avec une barre qui est plus courte. Donc tout le matériel est adapté, justement, et à se transformer. Pareil, pour avoir une profondeur plus grande, il y a juste un levier, il suffit de bouger un levier.
Ça fait mal.
Il y a juste 3 boulons à desserrer, resserrer pour remettre, changer l'écartement des roues.
Bon, mais le patron, elle dit, quand ça fait mal, ça fait du bien. Moi, j'aime ça, oui.
Et ça, c'est justement le travail de Promata en jonction tout le temps et en question-réponse tout le temps avec les agriculteurs, avec les utilisateurs, qui fait que le travail, le matériel s'est affiné, peaufiné au fur et à mesure des années, justement, pour être bien adapté à nos besoins, quoi. On a besoin de travailler vite, hein, on n'a pas envie de perdre du temps, on a besoin, en effet, d'être interchangeable sur du travail dehors, du travail dedans. Et ça, c'est idéal, quoi. C'est un petit porte-outil qui s'adapte à tout, là.
On va passer dans les serres pour ameubler un peu la terre et on va s'appliquer le mission de la réserve, là.
En préparation pour plus tard, pour faire les billons, pour planter les cultures de l'hiver, qui on va le vendre. Et on va devenir riche, heureux, beau. Je suis prêt là.
Allez, allez, vas-y, allez. Allez, Mayouli, oui, on y va. C'est bien, doucement, doucement. À droite un peu, à droite un peu.
Oh, I'm not very close there. Is she close?
Oh, yeah.
Okay.
Vous, par exemple, est-ce que vous avez été confronté à certains problèmes? Vous avez fait un retour à Promata, vous avez pu échanger là-dessus?
Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, je me rappelle toujours le coup des disques. On a des disques billonneurs là, pour monter des buttes, hein, puisqu'on travaille en butte, justement, pour éviter l'érosion, etc. Et travaillant dans une terre lourde, et quelquefois en conditions un peu limites, même presque comme aujourd'hui, la terre est un peu humide, la terre colle au pied des chevaux, à nos bottes, mais aussi sur l'outil. Et les disques billonneurs, là, on passait, et on récoltait de la bouillasse sur les disques, et le travail était inutile au bout du compte, parce qu'on n'arrivait plus à monter nos buttes. Et là, justement, en parlant de ce problème avec Philippe de l'Atelier, et en y pensant et tout, il a fait un système de petites rasettes qui est adapté sur les disques, et au fur et à mesure que le disque tourne et ramasse de la boue, et ben, les petites rasettes décollent cette boue, et du coup, l'outil derrière est clean tout le temps. Et ça, c'est un exemple typique, oui, en effet, de l'échange constant entre l'atelier et l'atelier Promata et les utilisateurs. Quoi. Et ça a mis bon pareil. Il avait fait un premier prototype, on a essayé, il a fallu refaire un deuxième parce que le réglage était difficile. Et ça, c'était notre retour, on l'a essayé. Et puis bon, c'était trop long, il fallait toujours le changer à chaque fois. À chaque fois qu'on réglait, on lui en a parlé, il a recommencé. Et maintenant, le petit accessoire est parfait, nickel, et on s'en sert tout le temps.
Nous sommes l'atelier de l'association. Donc ce sont les agriculteurs qui reviennent vers nous en nous disant nous voudrions faire telle opération sur le sol de cette manière-là, trouvez-nous quelque chose. Voilà. Ce sont des paysans qui pensent des outils pour d'autres paysans. Et nous, nous sommes à l'atelier que la cheville ouvrière. Point barre. Ça doit rester autoconstructible, autoréparable. Donc voilà, sur les solutions qu'il faut que l'on trouve, c'est et des solutions donc de confort d'utilisation et aussi au niveau de la fabrication. Il ne faut pas que ça nous demande des choses trop compliquées de toute façon. Il faut que ça reste rustique. Voilà, tout simplement le mot peut-être. En fait, ça veut dire tout simplement que ce sont des outils que l'on peut fabriquer et que l'on peut réparer dans des ateliers de village. Donc uniquement avec de l'outillage simple de métallurgie, c'est fait à la main.
Il suffisait d'inventer des outils à la portée des paysans. Parce que des outils, on en a inventé plein pour les animaux. Mais ce sont des outils monovalents. C'est-à-dire, tu as un outil pour labourer, avec son bâti, sa roue et tout, un outil pour biner, avec son bâti, ses mancherons, etc. Un outil pour buter. Et si tu veux arriver à tenir ta culture du début à la fin en traction animale, il te faut tellement de gammes d'outils que personne n'y accède. Et jusqu'à présent, en plus, ils sortaient de l'industrie, ces outils à traction animale. Donc, difficile à réparer, de la fonte, difficile à souder. Conclusion, l'agriculteur, même en traction animale, était dépendant de l'industriel. Et ça, Jean-Noël, il s'est rendu compte. Il fallait améliorer les conditions de travail, bien sûr, l'outillage. Mais il fallait le maîtriser, cet outillage. Techniquement, ça veut dire, au lieu de multiplier les châssis pour réinventer des outils, il est parti sur un concept simple, c'est la polyvalence. Créer un porte-outil, et chaque paysan, en fonction des animaux qu'il possède ou de ses besoins de travail du sol, pourra mettre les outils qu'il a besoin. Et enfin, tous les porte-outils, partout, doivent être fabriqués exactement de la même façon, c'est-à-dire standardisés, de telle façon qu'on puisse acheter en commun des outils, se les prêter, voilà.
Vani, Piren, allez. Donc voilà, bah là c'était donc une culture d'oignons qu'on a arrachée, donc là on va retravailler les terres avec la jument très prochainement. Et là voilà, ça c'est des navets, là c'est des panais, ça c'est des radis noirs. Et au milieu on a fait donc une bande fleurie, là je sais pas si vous voyez les grandes. Il y avait plein de fleurs différentes pour attirer des insectes et voilà, pour mieux polliniser les légumes, pour attirer la biodiversité, etc. Donc voilà, puis en dessous on a les carottes, la parcelle de poireaux, et la parcelle de choux, et après un peu de tout. Sur votre gauche, vous avez un vieux verger là qu'on a rénové. Donc c'était des vieux pommiers qui étaient complètement laissés à l'abandon. Donc là, on a tout retaillé, tout ça. Puis maintenant, on récupère les pommes pour faire du jus. Juste derrière vous, vous avez la serre. Donc c'est une petite serre qui nous sert juste pour les plants en fait, pour démarrer les légumes et pour faire les tomates. Parce qu'ici, on est dans une vallée très humide et la tomate, ça vient pas dehors. Donc ça, c'est une petite vallée où il n'y a jamais personne qui vient. Donc on est très tranquille. C'est notre petite vallée à nous. Et donc nous, on a les prés après de l'autre côté de ce ruisseau là. On devine jusqu'à là, on voit le chemin là-haut là. Donc ça fait une grande parcelle là où on fait du foin et où ça sert de parc pour les juments. Donc en fait après c'est tout vallonné derrière. C'est que de la forêt quasiment, puisque c'était avant tout ça c'était cultivé ou c'était des prés. Mais depuis la déprise agricole dans les années 50 à peu près, ça s'est enfriché puis enforesté et maintenant il y a des forêts quasiment partout. Parce que en gros plus personne veut cultiver à la montagne quoi. Parce que c'est un peu en pente, parce que le climat n'est pas idéal, donc tous les gens qui cultivent vont dans la plaine et on fait dans la montagne on fait de l'élevage et dans la plaine on fait des céréales. Voilà. Alors que nous on préfère faire une agriculture un peu diversifiée, un peu de tout, et on peut le faire en montagne quand même. Surtout grâce à la traction animale. Donc voilà, tout ça c'est nous on travaille tout sur but, donc avec la cassine, le matériel Promata, ça fait des sillons pour que le cheval il sait où marcher. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre d'être moins présent au niveau des guides et de la direction du cheval. Une fois qu'il est dans le sillon, il avance tout droit, en général. Sauf s'il y a une belle touffe d'herbe juste à côté et qu'il a faim. Mais en général, voilà, ça guide le cheval. L'intérêt prioritaire pour le maraîchage, c'est pratique pour biner. Et surtout, ça permet d'économiser l'eau. C'est-à-dire qu'en même temps, s'il y a trop d'eau, ça va drainer le surplus d'eau. Mais s'il n'y en a pas assez, ça va garder toujours un peu d'humidité dans le cœur de la butte. Ce qui fait que ça va profiter aux légumes. Voilà, donc ça permet de faire des cultures pas ou peu irrigué. Donc voilà, ça cet intérêt là ça permet aussi donc de travailler et de désherber rapidement avec les chevaux, puisque du coup on désherbe jusqu'au bord de la butte. Il y a 5 cm en gros qui doivent être faits à la main, mais de chaque côté des légumes, mais tout le reste sinon on a des outils, que c'est la jument qui tire, qui fait que ça mécanise entre guillemets le travail. Donc ça nous économise de la fatigue en gros, parce que tout ce qu'elle fait en gros là. Pour biner tous les sillons sur cette surface-là, en une journée, on a biné tous les sillons avec la jument. Donc, alors qu'à la main, ce serait beaucoup, 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 beaucoup plus.
Genre à peu près combien de temps ?
Oh, je sais pas, si on fallait faire tout ça à la main, il faudrait peut-être 50 journées au lieu d'une journée. Un truc comme ça, je pense. Ou peut-être 30, quoi, mais c'est énorme.
Et ce qui est impressionnant, c'est que tu arrives à être quand même hyper précis au niveau des tracés et tout ça avec des juments, quoi.
Ben, en fait, ça, c'est grâce entre autres au matériel moderne. Donc ça pourrait être fait comme dans le temps avec des très bons meneurs, mais pour tirer deux lignes droites bien parallèles avec un butoir classique ancien, c'est pas évident. Alors que nous sur la cassine qui est moderne, on a des disques bioneurs. Donc le disque il se repositionne toujours dans le sillon d'à côté, ce qui fait que si la première ligne est un peu courbe, la suivante aura exactement la même courbe et ça continue parallèlement. Donc ça c'est un des avantages du matériel moderne, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des sillons droits. Et donc là c'est tous les juments qui est fait depuis 3 ans, il n'y a pas de tracteurs qui sont passés du tout sur ce terrain quoi. C'est 100% les juments qui font. Fais gaffe parce qu'elle vue.
Allez, viens ma belle. Allez.
Vanny, elle est au dressage là. Ben, elle a 3 ans et demi maintenant. Je l'ai achetée quand elle avait 10 mois. Donc 3 ans, c'est à partir de l'âge à peu près on peut commencer à les faire travailler. Tout doucement, hein, parce qu'ils sont pas encore adultes. À 5-6 ans, on peut commencer à travailler dur, on va dire. Donc là, j'ai commencé à lui mettre la semaine dernière. Elle a eu la herse pour la première fois. Juste pour l'habituer à être sensible, à bien réagir quand je lui demande de tourner à gauche, faire un pas à gauche, faire un pas à droite. Travailler sur de la précision, puis surtout sur de la tranquillité. Donc on l'habitue à des bruits, on l'habitue à des bâches, à des choses comme ça, pour qu'elle soit tranquille. Parce que un des problèmes de l'attraction animale, c'est que les chevaux et les équins en général, leur mécanisme de défense naturel, c'est la fuite. C'est comme ça qu'ils se défendent. Donc ils ont appris, eux, à réagir au moindre mouvement et à se barrer. Donc nous, quand on a un outil agricole derrière ou une charrette, on n'a pas envie. Lily, tu files. Allez. Là, tu files. Tu files. Là. Les chevaux dans la nature, donc ils marchent par bouche de là, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait bouger l'autre. Celui qui fait bouger l'autre, c'est le dominant. Celui qui est bougé, c'est le dominé. Donc ça, c'est leur façon de communiquer. Donc d'abord, ils vont se dire, bouge là, gentiment, juste avec un petit hochement de tête ou un regard ou quelque chose comme ça. Et celui qui arrive à faire bouger l'autre juste avec un tout petit regard, c'est le super dominant, on va dire. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on essaie d'obtenir. C'est juste une façon de communiquer. Donc si ça ne réagit pas comme ça, on peut monter les faces. On va le redemander avec plus d'intention, avec le corps bien droit, avec éventuellement gonfler le torse, truc comme ça. Et donc là, en général, ça réagit. Si ça ne réagit pas, on monte les faces jusqu'à 5 fois. Et la 5e fois, normalement, c'est là qu'on est autorisé à toucher le cheval. C'est pas frapper le cheval, c'est toucher le cheval. Avec la chambrière, avec la main. Voilà. Et là, le cheval, il sait que c'est là, c'est maintenant ou jamais. Donc là, il bouge. Et c'est comme ça qu'on arrive à établir la relation. Lui, il nous le fait savoir s'il n'a pas envie. Il fait des mouvements, des bruits ou des refus d'avancer, par exemple. Avec Pyrène, c'est souvent ça. Elle nous dit, ouais, j'en ai marre, stop. Donc elle n'avance pas au premier coup. Mais ça nous permet aussi de doser, quoi, de savoir ce qu'elle nous dit à elle, en fait. C'est pas juste je suis feignante, c'est là, c'est trop pour moi, point. Aussi, des fois, c'est je suis feignante, des fois, c'est trop pour moi.
Là, on est dans l'écurie des mules. C'est normal qu'on entende des bruits de mâchoire. Il y a un peu plus bas l'écurie des bœufs. Et puis, un certain nombre d'animaux, dont des juments qui sont en liberté en ce moment, qui profitent des derniers rayons de soleil et du brame des cerfs qui a déjà débuté. Les deux derrière moi sont des mules faites avec des juments de sang à pelouse. Ah, là, je crois que peut-être les bœufs sont en train de rentrer, non ? Je ne sais pas. Alors, celles-ci sont des élèves que m'a confié un éleveur qui a des chevaux de trait et des chevaux de sang et qui a le goût des mules et il me les a donné en dressage. La troisième est une mule que j'ai élevée, que j'ai dressée ici. C'est une vraie mule des Pyrénées. Elle est faite avec un baudet catalan et une jument bretonne. Elles ont encore, grosso modo, 15 jours d'école à subir, entre guillemets, avant d'être rendus à leur propriétaire. Les animaux, ils ont pas un clavier avec 7 octaves, ils ont 2 notes. C'est dominant-dominé. Donc, il faut très rapidement savoir que le dominant, c'est l'homme. Ça, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on a un fouet à la main et qu'on matraque la bestiole. Mais il est clair que c'est vous qui commandez. À condition, bien évidemment, de ne pas demander à l'animal des choses qu'il ne puisse pas faire ou qui soient aberrantes. Mais le dominant dans la société animale, c'est pas celui qui s'impose par la force, c'est celui en qui on a confiance. Par exemple, dans un troupeau de vaches, c'est la vieille vache à moitié borgne et boiteuse qui sait quand c'est qu'il faut changer de côté de la vallée parce qu'il va y avoir un orage ou parce qu'il y a la sécheresse ou parce que le pacage là-bas est meilleur. Et par rapport à l'attraction animale, pour revenir à notre sujet, c'est pareil. Il a confiance en vous parce qu'il sait, il est sûr, que vous n'allez pas le tromper ni l'amener là où il ne faut pas.
Parce qu'on ne peut pas travailler s'il y en a un qui a peur. Et pour que l'âne prenne confiance en lui, vraiment, ce n'est pas naturel de tirer un outil. Hein. Il faut d'abord que vous ayez confiance en vous. Et certains ont un peu les jetons, surtout au début, hein, tu tremblotes un peu, hein. Et ça, tu compenses en criant ou en voulant faire le cake. Et avec les ânes, c'est pire que tout, si tu fais comme ça. Donc on a un rapport clair à avoir avec nos animaux de trait. Mais les brutalités d'antan, aujourd'hui, on fait une croix dessus. Et s'il faut débaucher parce que l'animal en peut plus, on n'insiste pas à coups de bâton parce que c'est nous les plus forts. Donc effectivement, on a envie aussi de progresser dans ce rapport à l'être humain, à l'animal, et montrer à ceux qui veulent s'installer en traction animale qu'il est très important de respecter l'animal. Et pour le respecter, il faut le connaître.
Quelles sont les étapes de dressage avec une jeune mule ou un cheval ?
Ben, la première étape, c'est la mise en confiance, c'est-à-dire arriver à manipuler l'animal sans danger, lui lever les pieds parce qu'il va être ferré, bien sûr, aller l'amener à l'abreuvoir ou à un endroit ou un autre sans qu'il tente de s'échapper. Et de voilà, il faut qu'il arrive à vous faire confiance. Ça, cette phase-là s'appelle de l'apprivoisement. Ensuite, ben, on attaque le débourrage proprement dit, qui dure grosso modo entre 1 et 2 mois. Et qui consiste en un certain nombre d'exercices, de gymnastique, d'assouplissement, qui soient latéraux ou qui soient longitudinaux, et qui sont aussi une gymnastique des méninges, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait des exercices, l'animal apprend à obéir, il apprend à respecter votre voix, à respecter les ordres, avec quand même un principe, c'est de faire des leçons courtes, mais répétées. Voilà, ensuite, il y a tous les exercices de traction avec un petit pneu. D'abord, moi, j'utilise beaucoup les pneus parce que si jamais ça se passe mal, les pneus ne présentant pas d'aspérité ne sont pas facteurs de blessure. Alors, petit pneu, moyen pneu, grand pneu de tracteur. Et puis ensuite, j'utilise les côtes pour débuter les animaux au tirage. Et là, même s'il y a des velléités d'emballement, au bout de quelques centaines de mètres, la côte aidant, on se calme. On est là, cocotte, on est là. Alors, on parle des matériels. Ici, vous trouverez essentiellement du matériel ancien, de récupération. Ça veut dire qu'il faut faire des kilomètres et avoir un œil assez aiguisé pour aller sous les ronces et sous les orties. Mais quelquefois, ça paye et on trouve des petits bijoux. Alors, ainsi, ce Brabant, qui est vraiment la charrue la plus perfectionnée qu'on puisse imaginer, qui n'a d'ailleurs pas évolué depuis qu'elle a été créée. Ça fait 2 siècles qu'on sait se servir de ça. Et c'est vraiment le tip-top en matière de labour. Ça a dû être fait entre 14 et 40, je pense. Voilà les bœufs qui arrivent. Le jeune homme qui mène ses bœufs, il y a une semaine, il n'avait jamais vu un bœuf de sa vie. Rien ne me rend plus heureux que de voir des débutants qui arrivent à se servir des bestioles que j'ai dressées. Ça veut dire qu'elles sont bien dressées.
Barrel, presso, là, presso, presso, et voilà, là, il a l'habitude d'être à l'écurie. Donc là, il y a un copain qui a pris sa place. Là, oh, normalement, il se range direct.
Là, je suis en formation pour aller travailler dans les vignes et après dans le Bordelais avec les bœufs. Avec ces bœufs-là. Ils sont très placides. Et là, c'est un plaisir de travailler avec eux.
Là.
Attention à vous.
Là. Et. Allez.
Doucement.
Là, le travail en paire, ils connaissent, mais on apprend le travail dans les vignes ensemble, quoi. Moi, comme les bœufs. Et ça, c'est un joug. Et le timon est maintenu sur le joug à l'aide d'une ambiette. Celle-là, c'est une ambiette métallique. Il y en a d'autres en chêne tressé, d'autres en air de bœuf. Voilà, ça dépend des régions. Et maintenu, qui peut être maintenu par une autre ambiette métallique derrière. Donc l'ambiette métallique de devant sert à tirer la charge. Et celle de derrière sert à retenir. Ça, c'est du matériel ancien. Il y a encore une personne qui en fabrique en France, au moins une. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur des tracteurs et Et je me suis retrouvé coincé du dos, tout simplement avec les vibrations du siège, hein, et puis de se retourner tout le temps. Avec un cheval, bon, c'est sûr que c'est physique, hein, on a mal aux jambes. Au début, hein, ici en montagne, je viens de m'y remettre, avant j'étais coché, donc assis toujours sur un siège toute la journée. Là, je viens de me remettre à la marche à pied, ça crève, hein, c'est sûr, mais on a pas mal au dos. Il y a quand même les outils à porter derrière, mais voilà, ça fait de mal à personne de marcher.
Allez, mes mains! Oui, va tout droit, va! Allez!
On fait le course!
Allez! Si on n'avait pas de jument en traction animale, il faudrait qu'on s'équipe soit d'un tracteur, qui est quand même un certain coût, ou d'un motoculteur. Et motoculteur, c'est vraiment très très désagréable. Là, on a le moteur dans les oreilles, on a le moteur, les vapeurs d'essence. Et puis au niveau de la force physique aussi, dans les bras, c'est un travail très très pénible. Et puis, on est bien loin d'avoir l'efficacité qu'on a là avec cette petite bête là quand même.
Allez, oui. Allez, on y va. En position. Oui. Allez.
Elle connaît son travail là, hein, et bon là c'est bien délimité entre les rangs de poireaux, mais c'est vrai qu'elle sait très bien ce qu'elle doit faire là. C'est pas la première fois. Ça fait un paquet d'années qu'on passe la sous-soleuse et qu'on passe entre les rangs de culture comme ça. Et...
Là, c'est bien, c'est bravo. Tourne à droite,
oui.
Là.
C'est très précis parce que là, entre rangs, je crois qu'on est à 70. Hein. On est à 70, mais sur ces 70 cm, il y a un rang de poireaux et il y a la butte quand même. Donc vraiment, le passage de ses pieds elle-même, je pense qu'on doit pouvoir dire du 20 cm hein, de ses sabots. Et on voit, elle marche en danseuse, hein, vraiment pour éviter la culture, elle a vraiment ce sens-là hein, du passage entre les rangs. On passe aussi entre des rangs de salade. Là, la butte est bien marquée, mais les rangs de salade, les buttes de salade, c'est un petit peu moins marqué. Et c'est très rare qu'elle en écrase une. Hein. C'est, Non, elle fait vraiment du travail de précision. Elle est nickel. Là. On a un bon numéro. Je me demande si quelquefois, on pourrait pas en apprendre d'elle aussi, et pas seulement elle, en apprendre de nous. Hein,
et pour passer la sous-soleuse, ça vous a pris à peu près combien de temps?
Je sais pas. Je pense qu'un rang d'une centaine de mètres, on fait quoi? Moins d'une minute. Hein. Ouais.
Et au niveau de la répartition des rôles, vous faites toujours comme ça? Donc c'est toi, Marion, qui mène la jument?
Ouais. Pas de choix, c'est Marion qui l'a décidé.
Non, moi je suis le chef.
Ouais. Et on contrarie par le patron. tu contrôles tout, mais on continue.
On y va.
Tout le monde se doute bien qu'un tracteur qui consomme du gasoil, c'est pas la même chose qu'un cheval qui consomme du foin et qui produit du fumier alors que l'autre produit du CO2 et des métaux lourds. Il y a quand même un avantage énorme, mais bien sûr sur petite surface, entre la traction animale par rapport à la motorisation, c'est qu'on peut rentrer dans nos cultures tout le temps. Pour les bio, pour nous, les producteurs très diversifiés, il n'y a qu'en traction animale qu'on peut le faire, ou à la main, quoi, je veux dire. On peut reprendre un bilan individuellement dans la culture, le traiter individuellement, faire une petite récolte ou un petit apport de compost. On peut rentrer dans nos cultures tout le temps, même dans les plantes médicinales, etc. Il n'y a que quand on cueille les fleurs des plantes médicinales qu'on n'introduit plus les animaux, pour pas qu'ils laissent de crottins, des choses comme ça. Parce qu'on est des minutieux. Donc même un animal peut polluer avec le peu de méthane qu'il envoie. Avec un tracteur, par exemple, il va falloir faire toute la parcelle d'un coup. On ne va pas pouvoir rentrer pour prendre une bande au milieu, des choses comme ça. Donc l'alliance des deux va être intéressante quand on travaille professionnellement, qu'il faut produire et vendre. Quand il faut distribuer des paniers ou faire les marchés, il faut qu'il y ait de la production. Et le tracteur peut être avantageux en tout début de saison, quand on sort de l'hiver, là où la terre est difficile et puis qu'il faut pas traîner parce qu'il risque de repleuvoir, tout ça.
Bon, faut pas oublier qu'un tracteur, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, c'est quand même une énorme dameuse, ça tasse le sol. La terre résiste, donc on est obligé de... Avec un tracteur, effectivement, on défonce tout. On a la puissance, on a le poids, on a... Mais voilà, c'est un prix, automatiquement. Ben, en fait, ce sont des usines qui pensent du matériel, qui présentent justement aux agriculteurs des outils où ça fait tout. Voilà, vous n'avez pas à vous soucier, vous venez nous voir et nous faisons tout. Voilà, on vous donne avec cet outil-là, on vous donne les sacs de graines, les sacs d'engrais, et voilà. C'est ce concept, en fait, de consumérisme, tout simplement. C'est-à-dire que on arrive, on monte dans le tracteur, il est 8h, et il faut qu'à 6h, on est fini, et voilà, basta. Et tout ça, bon, ça fait marcher, bon, effectivement, ça fait marcher une chaîne qui est énorme, une chaîne industrielle. Donc, nous, avec les animaux, on marche pas du même pas, quoi. Enfin, pour certains, on est carrément des extraterrestres. Hein. Voilà, la fameuse question, mais pourquoi vous appelez ça moderne alors que vous travaillez avec des animaux? C'est comme si c'était un recul d'un siècle. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Prenez une veste au cas où.
On les appelle pas à voix haute,
ouais.
On les aborde progressif.
Ouais.
Donc là, tu peux descendre, tu prends Pepita.
Zorro.
Bon. Ça, c'est Lucky, c'est un mâle, castré maintenant, travaille tout seul, il est très très intelligent.
Et bien. Allez, pose.
Mais au moindre geste un peu nerveux ou quoi, ça le stresse. Il faut le calme complet.
Lui. Allez, donne.
Yo. C'est le fils de Julie qui est morte samedi matin, sa vieille mère. Zorro, le noir,
donne Pepita.
C'est le fils de Pepita, l'Andalouse, toute blanche. Et elle nous a fait un noir.
Voilà. Allez, pose.
Là, c'est bien.
Le petit rituel d'aller chercher déjà l'animal dans son pré, établir un premier contact. Et puis commencer à l'attacher au licol et là déjà voilà, il sent qu'on va travailler ensemble, on établit un contact par le biais de cette attache qui est douce. Et à partir de là, on va le préparer, donc le brosser, nettoyer bien ses pieds, qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui puissent causer un abcès, parce que c'est vrai que c'est des animaux qui ont des pieds très sensibles et en tout cas il faut qu'ils aient un pied en très bon état pour pouvoir travailler.
Je répète, on se met à gauche de l'animal. Pour harnacher.
Quand on prépare les ânes là, de jour, dès qu'ils sont en phase de préparation, ils sont déjà dans leur tête, ils ont déjà compris qu'ils allaient travailler et il y a déjà un contact qui est établi, il y a un changement de comportement par rapport au moment où ils sont dans le pré. Et voilà, c'est des petits moments qui sont très importants, qui vont certainement conditionner après le reste de la journée de travail. Si déjà on établit un bon contact au départ, on met un peu l'animal dans sa poche. À part avec Pepita, qui est peut-être un petit peu vieille et caractérielle maintenant, mais...
Pepita. Et... Oh bah, ah ouais, d'accord. Allez. Pepita, allez. Et quand il y a des stagiaires, alors là, elle les fait tourner en bourrique, comme on dit. Mais moins maintenant qu'elle est vieille, parce qu'elle commence à avoir de la bouteille. Elle est beaucoup plus tranquille, elle fait plus les filouteries qu'elle faisait quand elle avait 10 ans. Mais elle faisait semblant de boiter. Je m'éloignais pour chercher quelque chose, je reviens, tous les stagiaires, comme ça. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible, Pepita, elle boite trop. J'ai dit, allez-y, lancez-la, je regarde, je me mets au coin, là. Effectivement, elle était là, comme ça. Mais comme ça. Quand tu vois un âne faire ça, t'arrêtes tout, hein, c'est les urgences. Hein. D'un seul coup, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas pris un clou dans... C'est pas vrai, là, il y a un truc. Arrive au coin de la porte, elle m'avait pas vu. Il fait alors Pepita, ça va pas? Oh, elle dresse les oreilles, bim bim bim, d'un seul coup, tac tac tac, fini, elle boitait plus. À 20 mètres. Donc elle fait du cinéma, elle embrouille les stagiaires, et quelquefois elle les fait vraiment
on croit qu'elle va mourir, que c'est la fin, elle ne peut plus, c'est pas possible, alors qu'elle n'a rien fait. J'arrive, je monte un peu la voix et elle est partie pour une heure comme une jeune fille.
Allez, Pépita, i.
Il faut que l'animal s'échauffe, donc il faut déjà commencer par un petit outil. On ne fait pas exactement ce qu'on voudrait au moment où on le voudrait, comme on peut peut-être le faire avec un tracteur. Mais bon, c'est d'un point de vue agronomique et d'un point de vue plaisir de travail, ça n'a rien à voir, quoi. Pour avoir expérimenté tracteur et motoculteur, je pense que voilà, la différence, elle est assez flagrante.
Il n'y a rien à l'avant, c'est bizarre. Oh, pas des masques.
Ouais, c'est sûr.
Droite.
C'est moins compliqué peut-être qu'un tracteur de 150 chevaux avec 10 000 leviers, un tableau de bord ultra perfectionné et une cabine qui ressemble à une navette spatiale, quoi. Après, il y a des subtilités. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment avoir des temps de formation. Il y a des gestes, des savoir-faire, des savoir-être avec les animaux aussi. Et tout ça, c'est, ouais, ça reste quand même une technique à travailler. Un tracteur, voilà, on met la clé, s'il ne démarre pas, on peut pester dessus. Voilà, on est tout seul, quoi. Avec l'animal, il y a vraiment une relation, il y a un échange, il y a un travail collectif. Et on est moins seul, même si y a un seul humain dans le champ à bosser, il y a un animal avec, au moins un. Il y a plein de choses, hein. Il y a des sentiments qui passent. Ouais. Il y a des temps forts où on peut s'épauler, où on fait confiance l'un à l'autre aussi. C'est rare dans un monde de machines, ça.
Un Pépita. Eh bien, tu vas le montrer. Tu lui mets la longe.
Et puis toi, tu vas bosser. Tu pètes. Allez, hip, hip, allez, hip, tu m'accompagnes, allez, hip, you, allez, voilà, pas tellement envie. Alors on prend Zorro, puis même Topo, mais lui, il a qu'une roue.
C'est du matériel vivant, c'est un gros mot, un matériel pour un âne, c'est pas que ça, mais c'est du vivant, donc il faut s'y contraindre aussi, et ça rappelle à l'ordre des choses, ouais. C'est pas un tracteur qui va démarrer, sur lequel on va tirer comme un dingue, qui démarrera et puis ensuite après on le remet au garage. Ouais, ça donne un autre rythme.
Là, oh là. Quand ça tombe, faut jamais s'affoler. Faut pas aller plus loin.
Même si à un moment donné, ça prend du temps d'élever un animal, c'est une réalité. Mais en même temps, quand tu peux buter des pommes de terre simplement en marchant derrière ton animal et au rythme de la marche, plutôt que de t'y mettre pelle-pioche, je sais pas, ça va 100 fois plus vite peut-être. Donc même s'il y a un jour où tu perds du temps parce que ton âne il s'est barré et que du coup il faut lui courir après, eh ben n'empêche que chaque jour quand tu travailles, tu gagnes un temps précieux, tu t'économises physiquement aussi, parce que c'est quand même des métiers physiques. On est souvent penché sur la terre. Et du coup, on réduit aussi les tâches pénibles qui sont les nôtres, quoi. L'animal en prend beaucoup en charge. Il faut aussi calculer qu'est-ce que ça coûte un amortissement de tracteur, parce qu'une cassine, à part une soudure, et éventuellement changer un soc, c'est tout ce que ça peut nous coûter dans nos 40 ans de travail agricole. Et ça vaudrait le coup que quelqu'un se penche dessus. Je pense qu'on aurait des surprises. À la fois en termes de temps et à la fois en termes d'économie, quoi.
On va mettre les vibros. Les mêmes outils. Donc on en met une ici à la deux roues. Et on mettra Pépita.
Tu veux mettre quoi?
Non, le vibro. Juste le vibro. Un effort moyen. Oh, Bilou, tu commences vraiment à gonfler le monde, là. Hein? Tu vois pas que t'es chiante? Tu veux quoi?
Et l'autre vibro, du coup, il est...
Il est là-bas aussi, mais on va y aller avec la cassine. Économisez-vous, c'est les ânes qui vont aller chercher l'outil. Hein? C'est l'âne qui vient l'outil et pas l'inverse.
C'est vrai que les outils Promata, ils sont déjà très accessibles hein, par rapport à l'achat d'un tracteur, même enfin en matériel neuf. Tu achètes une cassine avec les outils derrière, tu peux vraiment t'installer et avoir un outil de travail complet pour démarrer une activité maraîchère. Non, pour un jeune, c'est enfin pour un jeune et pour un vieux, c'est surtout les petites surfaces maraîchères. Hein. Maintenant, les jeunes qui s'installent pas en traction animale, il leur faut tout de suite des, pour revaloriser leurs emprunts, etc. Il leur faut des grandes surfaces, hein, c'est des 80-100 hectares, c'est des mises de fonds énormes au début pour les jeunes qui s'installent. Alors que le maraîchage sur des petites surfaces, un maraîchage familial, avec le matériel Promata, c'est tout à fait possible.
Pour la cassine, on mettra Pépita dans celle-là. Voilà. On peut lever le crochax. Grâce à la barrette, ça nous libère notre main gauche. Un outil léger, on peut soulever la cassine, on vire l'outil, on a préparé l'autre, on enfile.
En maraîchage, moi je suis installée en maraîchage, on a énormément de légumes à travailler, donc des techniques très différentes pour chaque légume. Il nous faut, pour travailler vraiment au top et avoir des rendements suffisants pour survivre, il faut quand même une gamme d'outils très très large qu'on peut pas se payer quand on démarre, quand on est jeune agriculteur comme moi. Acheter un tracteur avec 14 outils, au secours quoi. Je vois pas déjà quel est le banquier qui va me faire confiance pour me prêter une somme qui me permettrait de m'équiper comme ça, alors qu'avec du petit matériel léger, simple d'utilisation, comme le matériel de Promata, c'est envisageable d'avoir une gamme d'outils et de travailler correctement dès le départ. Donc, on a un métier difficile, on a du mal à joindre les deux bouts, tout le monde le sait, et c'est peut-être une façon aussi d'y arriver, quoi. Voilà, j'espère en tout cas.
Oui, c'est vrai que la traction animale, ça permet de s'installer avec peu d'investissement, je dirais. Cela dit, ça représente quand même un minimum, mais c'est vrai que par rapport à des collègues qui se sont installés en même temps que nous sur un système plus classique, je dirais avec du paillage plastique, beaucoup de cultures sous serre, le tracteur, etc., ils ont investi beaucoup plus d'argent que nous. Les outils de traction animale sont pas très chers, enfin en tout cas ça revient moins cher qu'un tracteur et la gamme d'outils qui va avec. Ça allège le poids de l'installation financière, mais ça enlève pas le problème du foncier, quoi.
En s'installant, il y aura toujours des sous-enjeux. Il faut avoir un accès à la terre, il faut avoir un accès à un minimum, mais pas s'installer en battant des records d'emprunt et de dettes, à être prisonnier de tout ça et courir toute sa vie pour rembourser, quoi, avec des intérêts parfois plus importants que tout le reste, quoi.
Tea.
Yeah. Est-ce qu'on veut encore du thé?
Ouais, mais je veux bien aussi. Mais bon, ça roule. Enfin, notre affaire est une affaire qui roule, on va dire. Après,
Chut, il ne faut pas dire ça.
Mais notre boulot, il est vachement diversifié, en fait. Hein. On fait un maximum de légumes d'hiver, hein, poireaux, courges, oignons. Alors, on a 5, 6, 7 variétés d'oignons différents. Oignons frais, oignons secs, de l'échalote, de la salade, pareil, 8 variétés de salade, 3 ou 4 variétés de chicorée, de la mâche, de l'épinard, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du melon, des choux, du brocoli, du chou-fleur, du chou frisé, du chou de Bruxelles.
Des tomates de plein champ.
Des tomates de plein champ, oui. On a une partie de la production de tomates qui est en serre aussi pour avoir des produits un peu précoces, parce qu'il faut quand même achalander le marché tout le temps. Et maintenant, on a une AMAP, donc des paniers. On fait 32 paniers, donc on fait manger 32 familles presque toute l'année. Et on a un marché. Donc sur deux périodes de vente, on arrive à écouler toute notre production et en effet à faire marcher l'entreprise familiale à deux personnes.
C'est un avis que je donne à tous les jeunes qui veulent commencer, parce que c'est possible de travailler le traction animal avec une personne, mais je conseille vivement de commencer à deux.
Ça permet quand même une autonomie, si tu veux, la traction animale. Personnellement, moi je suis bien content d'avoir un mec costaud à côté. Mais c'est vrai qu'il y a des petites nanas qui se lancent en traction animale. Moi, je les admire beaucoup parce que personnellement, je m'en sentirais pas capable. Et après, ça, c'est en dehors de la traction animale, en dehors de Promata. C'est vrai que c'est un métier dur et le faire tout seul, tout le temps, je pense que c'est vraiment dur, compliqué, épuisant. Et que ce soit deux filles, deux mecs ou une fille et un mec, je pense que c'est vraiment bien d'être à deux au moins, quoi. Bon, l'attraction animale, t'es plus tout seul, t'as ta petite bestiole à qui tu veux parler aussi. Hein. C'est vrai que c'est aussi une dimension réelle quand même. Moi, je préfère, en effet, oui, avoir une troisième personne animale à côté de moi plutôt que de compter mon tracteur comme un animal. Hein, et puis penser à mon banquier qui m'a donné un emprunt que je dois rembourser tous les mois. Je préfère aller lui parler à elle que parler à mon banquier. En fait. Mon banquier, il est très gentil. Hein.
On ne sait pas vraiment où est la limite entre notre travail ou notre loisir. Quand je vais chercher mon cheval à 1 km parce que j'ai un parc un peu loin. Ah ben voilà, elle est contente. C'est du plaisir quoi, il y en a qui payeraient pour ça, nous c'est notre travail. Il y a d'autres moments, c'est vrai que des fois c'est un peu dur, c'est du... mais on fait pas la... Donc du coup on est tout le temps actif, mais je dirais on n'est jamais au travail. Et en fait on est peut-être un peu tout le temps au travail aussi. Là voilà qui vient nous voir, ouais.
Il faut éprouver du plaisir en travaillant. Tu peux pas être agriculteur sans aimer tout ce que tu fais, sans aimer ta terre. C'est pas un travail comme les autres. Tu veux pas t'obliger, tu tiens pas le coup de toute façon. Et c'est un milieu tellement sensible que pour avoir des résultats, faut bien le connaître. Pour le connaître, faut pas être à 2 mètres au-dessus, faut avoir les mains dedans. Et sentir son odeur, voir la microphone, enfin, il faut être là, présent. Même quand tu n'as rien à faire dans ta culture, tu te promènes dedans au moins une fois par jour. Je vais voir mes ânes tous les matins, je vais emmener un peu de foin, c'est pareil pour ma terre. Même s'il n'y a rien à faire, je vais quand même faire un tour.
Yeah. It's on the terrace.
Ok.
Oui, ça pleut bien, hein. Ça fait 2 mois qu'il pleut pas et c'est aujourd'hui qu'on va bosser dehors. Alors on va passer par là.
Quel est justement le moment que vous préférez dans votre travail?
Quand c'est fini. Moi, c'est pas une blague, ma chérie.
C'est vrai?
Quand c'est fini et tu retournes, tu as des jolis billons qui sont propres et faits. Et tu sais que tu vas planter. Non, quand c'est fini, oui.
Mais c'est pas c'est... le fait que ce soit fini, on en aura le bol, c'est terminé. C'est pas ça. C'est le fait que le travail soit accompli. Et pour nous, dans les meilleures conditions possibles, quoi.
Oui, mais...
Et puis tu vois, tu remets la jument au pré, là. Elle est pas trop fatiguée, elle est bien. Un petit câlin, même avant de travailler, tu vois, des petits câlins comme ça.
Je rêve de ça. Non, parce que le patron, elle dit, quand c'est fait, qu'est-ce que tu veux dire?
Je sais pas.
Quand c'est mal, ça fait du bien.
Quand ça fait du mal, ça fait du bien.
Mais aussi, elle dit, après le travail, c'est la récompense.
Ça vient d'avance. Attends. Le dessert après, mais oui. Voilà. Oh. Il ne coupe pas beaucoup celui-là. Ah. Oh, ça c'est mieux. Est-ce que ça valait le coup pour un vieux quignon de pain trop? Faut payer bien cher. Hein.
C'était mon collègue l'animal. Merci à Mike et Marion, Elisabeth Stelly, Philippe Zouba, Joe Ballade, Guillaume Kedrina, Olivier Courtiade, Charles Quinard, Pépita, Vanille, Yuli, Kumbia, Bilou et Zoro.
On laisse tomber un petit morceau. Regardez les tout petits loups pour toi. Oh oui, quelle chance. Ils aiment bien les petits trucs comme ça. On a essayé les pêches l'autre jour. C'était embêtant. Il fallait que j'enlève le noyau à chaque fois. Mais préférer le pain aux pêches, c'était assez rigolo.
À la réalisation, Christine Robert.
Toi, t'aimes pas ça, toi.
Prise de son, Benjamin Thuot.
On a déjà essayé. Tu fais semblant pour me faire plaisir. Ouais, je te connais.
Mixage, Benjamin Vignal. attachés d'émission.
Et voilà.
Eve Etienne et Christine Gage.
Bon, la dernière. Et après, Momo.
Un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory.
Ça y est. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez labourer avec une mule, bibliographie, lien, nous podcaster pour les semailles ou nous réécouter au moment de la récolte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter LSD Série Doc. Et demain, deuxième épisode, on va chez le vétérinaire.